Alors voilà, je m'appelle Nicolas Farelli, ça a été dit. Je suis l'heureux époux d'Alison, qui est américaine, et j'ai trois enfants. Et donc nous habitons Compiègne, au nord de Paris, c'est à peu près une heure au nord de Paris, en Picardie. Et je suis pasteur de l'église là-bas et je vous salue du coup de sa part. Je vous apporte les salutations de cette église sœur, aussi hein, dans la fédération baptiste. Alors, comme indiqué hein, sur la publicité qui a été faite, les petites affichettes, on va parler de la communauté pendant ces quelques jours, de la notion biblique de communauté. On va regarder ça sous différents angles. Et ce que j'aimerais que l'on puisse vivre ensemble, c'est non seulement pouvoir réfléchir, ouvrir les Écritures, méditer ensemble là-dessus, mais pouvoir le faire de manière interactive. Donc je vais quand même beaucoup parler, mais je vous poserai des questions et surtout, voilà, on va pouvoir dialoguer, je l'espère, sur cette notion-là. En tout cas, je ne voudrais pas qu'on vive ça comme une sorte de cours magistral, mais comme un temps où on peut apprendre ensemble, vivre les choses ensemble. Alors, on commence donc ce soir cette réflexion sur le thème de la communauté. Et c'est vrai, Norbert le disait, ces temps derniers, la communauté, le vivre ensemble, tout cela a été très mis à mal à travers le monde, mais ici, à Nîmes, sans aucun doute aussi, la pandémie est venue tirailler nos églises, entre le présentiel, le distanciel, entre ceux qui sont plutôt dans la peur, ceux qui, au contraire, en ont ras-le-bol de ceux qui ont peur, entre les pro-vaccins, les anti-vax, etc. Donc, nos communautés, toutes, ont été mises à mal, comme attaquées, quelque part, même si, évidemment, l'ennemi n'était pas focalisé sur elle seulement. Et voilà, nos communautés ont perdu pas mal de monde, entre le début de la pandémie et aujourd'hui, même si les choses reprennent. Les communautés ont dû se réinventer, dans leur fonctionnement, utiliser de nouvelles technologies, prendre en compte de nouveaux besoins, ou alors réaliser qu'il y avait des besoins anciens, mais dont on n'avait pas vraiment conscience. Bref, en parlant avec Norbert, il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, nous avons trouvé intéressant de pouvoir réfléchir, et bibliquement, Bible en main, autour de la communauté, pendant ce week-end. Mais alors, c'est quoi une communauté chrétienne? Comment vivre aujourd'hui la communauté au XXIe siècle? Ça veut dire quoi, être communauté? Et puis, quelle est sa mission? Pourquoi est-ce qu'elle existe, cette communauté? Quels sont les obstacles qu'elle va rencontrer aussi? Voilà, tout au long de ce week-end, c'est ce dont nous allons parler ensemble pour réfléchir aux liens qui nous unissent au sein d'une communauté, les liens forts qui existent au sein de la communauté chrétienne, et puis pour réfléchir ensemble à des manières de grandir toujours davantage dans notre fraternité. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez, vous, quand vous entendez parler de la communauté, quand vous entendez simplement ce mot « communauté », est-ce que ça a des résonances plutôt positives, plutôt négatives? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez bien, ou est-ce qu'il y a des blessures qui sont attachées à cette notion? Qu'est-ce que vous diriez, à première écoute?
Positif.
Plutôt positif?
Même avec blessures, mais
positif. Très bien, oui. C'est sûr que qui dit communauté dit blessure. Ça, je crois que le fait que nous soyons pécheurs, c'est votre cas, n'est-ce pas? C'est le cas aussi de vos voisins, c'est mon cas. Forcément, il y a des moments où ça clash, il y a des moments où ça se passe moins bien qu'idéalement, et on peut se faire mal. Mais c'est vrai que, globalement, dans l'Église, on va avoir tendance à considérer que la communauté, c'est quelque chose de positif, il y a des liens qui nous unissent, nous apprenons à avoir besoin des uns des autres, et nous apprenons à trouver que c'est une bonne chose d'avoir besoin des uns et des autres, de vivre des choses ensemble, de vivre des temps forts. Et justement, ce soir, je voudrais qu'on parle donc de la communauté comme une famille. Parce que ça, je crois que c'est quelque chose d'une grande richesse dans les Écritures, de considérer que notre communauté chrétienne, ici à Nîmes, au centre Martin Luther King, vous formez une famille. Cette communauté que vous formez est une famille. Et c'est une notion très riche, comme on va le voir. En quoi est-ce une famille, selon vous, la communauté ? On a le même père. Eh oui. Du coup, on est frères et sœurs. Tout à fait. Quoi d'autre ? C'est déjà beaucoup.
Partage.
On met en commun.
Des moments en commun, ouais. Et un vécu commun. Comme dans une famille. On n'habite pas forcément tous ensemble, sous un même toit, mais il y a des choses que l'on vit en commun et des choses fortes. Oui, très bien. On n'a pas tous le même âge, physiquement, mais aussi spirituellement. Hein. On n'a pas la même maturité les uns les autres. Et du coup, les plus anciens peuvent aider les plus jeunes, leur apprendre des choses et faire grandir. Et les plus anciens ont besoin des plus jeunes aussi. Ouais. On perçoit là déjà qu'il y a des choses intéressantes à vivre. Est-ce qu'on les vit vraiment ? Est-ce que... On prend vraiment, est-ce qu'on va à fond dans cette notion de famille, ou est-ce que c'est simplement une manière de parler, mais qui ne nous impacte finalement pas tant que ça. On est coutumier de cette idée. Hein. Dans l'Église, on le sait, l'Église est une famille, on le dit, on le répète, on le chante. Nous sommes unis dans la famille, nous sommes frères et sœurs les uns les autres, nous avons un même père, etc. Mais je pense effectivement que souvent, très souvent, on ne réalise pas ce que nous disons quand nous disons que nous faisons partie d'une même famille. Je pense que nous sommes tellement empreints de cette notion occidentale de la famille, cette notion moderne de famille, que nous n'avons pas capté à quel point l'enseignement de Jésus sur la question, et l'enseignement des apôtres aussi, est quelque part révolutionnaire et doit nous révolutionner. Doit nous impacter en profondeur. Il y a quelque chose de vraiment radical dans ce que dit Jésus sur la communauté comme famille. Et c'est ce qu'on va étudier ce soir. Et pour introduire mon propos, je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes, j'imagine, assez nombreux à avoir vu ce film. Ouais. Le grand film des années 90. Je ne vais pas demander à Norbert de nous faire la musique. Ouais. Céline Dion, non. Titanic, le grand film, ouais. Moi j'étais ado quand c'est sorti, qui raconte donc non seulement le premier et le seul voyage du Titanic, mais qui raconte aussi une histoire d'amour entre deux personnages, Jack et Rose. Vous vous souvenez d'eux ? Leonardo DiCaprio et la très jolie Kate Winslet. Alors que se passe-t-il ? Jack, c'est un jeune garçon sans dessous qui a gagné le voyage, un billet pour le Titanic, en jouant au poker. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vient des plus bas échelons de la société, de l'époque en Angleterre. Par contre, Rose, elle, eh bien, elle voyage en première classe, elle appartient à la très grande bourgeoisie britannique, c'est une jeune femme qui, en plus, est déjà fiancée à un homme du même statut, du même milieu qu'elle, mais c'est vrai pour qui elle n'a pas beaucoup d'affection. C'est quelqu'un d'assez antipathique, mais voilà, il est arrogant, etc. Mais le mariage a été arrangé entre les deux familles, et il en va de l'intérêt de la famille de Rose que ça se passe ainsi, qu'elle se marie avec cet homme. C'est vrai que la famille de Rose avait quelques soucis financiers. Il n'y a pas que les pauvres qui ont des problèmes d'argent, il y a les riches aussi, apparemment. Et pour maintenir son statut social, la famille de Rose a vraiment besoin que Rose se marie avec ce riche héritier. C'est bon, voilà. Pendant le voyage, Rose rencontre Jack. Et son monde est complètement chamboulé. Soir sur le bateau, elle tombe amoureuse et la voilà donc dans un dilemme très compliqué. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle va faire ? Soit aller de l'avant et épouser cet homme qu'elle n'aime pas, pour le bien de sa famille, soit poursuivre sa relation avec Jack, qui n'est pas du même milieu qu'elle, et qui apporterait la honte, qui apporterait vraiment la pauvreté aussi à sa famille. Que choisir ? Alors, vous avez déjà vu le film, vous savez comment ça se termine, tout. Enfin, c'est un peu évident comment ça se termine. Mais... qu'est-ce que vous diriez, vous ? Vous qui habitez là, en Occident, en France, au XXIe siècle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Rose ? Qu'est-ce qui vous remue dans les tripes ? Quel choix faire ? Écoute ton cœur, voilà, exactement. C'est exactement comme moi, merci. C'est exactement ça. Tout en nous a envie de dire, mais on s'en fiche de ces conventions sociales complètement désuètes. Ça n'a rien à voir, toi tu es amoureuse, poursuis ton cœur. Tout en nous a envie de dire ça. Et le film va clairement dans ce sens aussi. En tant qu'Européen, en tant qu'Occidental, tout en moi désire cela pour elle. Je ne perçois même pas vraiment en quoi c'est un gros dilemme pour elle. Parce que ce que je désire, c'est que Rose soit individuellement heureuse, qu'elle s'épanouisse, que sa famille garde son statut, c'est le cadet des soucis. Mais voilà, ce qu'il nous faut réaliser, et ce que j'ai dû réaliser pour moi-même aussi, c'est qu'en fait, seul un occidental comme moi, et comme vous probablement, peut dire des choses pareilles, peut penser une chose comme ça, peut ressentir quelque chose comme ça. Quelque chose de très nouveau, de très récent, avec cette manière de concevoir et de ressentir les choses. Parce que je pense que dans bien d'autres cultures, à travers les siècles, et aujourd'hui encore, à travers le monde, l'histoire d'amour de Jack et de Rose ne serait pas du tout perçue de la même manière. À l'époque de Jésus, en Palestine, par exemple, si on leur avait montré le film, ça aurait été compliqué, non ? On imagine, ils regardent là, à Nazareth, sur grand écran, le Titanic, les spectateurs auraient été absolument horrifiés par l'attitude de Rose. Ils auraient considéré son histoire d'amour avec Jack comme extrêmement risquée, mais aussi comme complètement folle et comme complètement déshonorante. La seule option pour Rose, c'était d'épouser ce riche personnage, aussi antipathique soit-il, si c'était pour le bien de sa famille. Parce que le groupe, et tout particulièrement la famille, passait avant toute autre considération personnelle, individuelle. À l'époque, mais aujourd'hui encore dans bien des cultures, c'est le cas. Le groupe, et en particulier la famille, passe avant toute autre considération personnelle. Et ça, c'est vraiment une grande différence avec nos approches culturelles. Aujourd'hui, dans nos sociétés individualistes, c'est l'individu qui prime sur le groupe. Mais à l'époque de Jésus, le groupe prime sur l'individu. Alors, gardez ça en tête, alors que nous allons lire ensemble un court texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Marc, donc au chapitre 3. Ce texte fait partie de ces très nombreuses fois où Jésus évoque les relations familiales et où il choque profondément ceux qui l'écoutent. Donc, on va lire ensemble Marc 3, à partir du verset 31. Le texte s'affiche. Sa mère, la mère de Jésus, et ses frères arrivent. Se tenant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors, ils te cherchent. » Il répond « Ma mère et mes frères, qui est-ce ? » Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Imaginez un peu. Je disais en introduction que dans une société collectiviste où le groupe, et en particulier la famille, prime sur les individus, donc comme à l'époque de Jésus, ou à l'époque du Titanic aussi, le bien du groupe prime. Le bien du groupe auquel on appartient, que ce soit la nation, que ce soit la famille, que ce soit la synagogue, que ce soit l'Église, le bien du groupe prime sur la satisfaction, sur le bonheur ou l'épanouissement personnel. Dans le monde ancien, on présumait cela automatiquement. Une personne se concevait comme membre d'un groupe avant tout, et donc comme étant responsable d'agir, de faire des choix, de vivre tout simplement en fonction du groupe, dans l'intérêt du groupe. Dans un groupe d'appartenance, chacun était donc libre d'agir, tout à fait libre, de faire ce qui lui semblait bon, de faire ce qui lui semblait juste, mais seulement si c'était dans l'intérêt du groupe. Encore une fois, c'est le groupe qui prime sur l'individu. Et donc, dans sa manière de penser, dans sa manière de se concevoir, chacun se demandait, non pas ce que le groupe pouvait lui apporter personnellement, de bon, de bien, mais ce que lui pouvait faire, ce que lui pouvait apporter, comment lui pouvait bénir le groupe auquel il appartenait. Vous vous souvenez du discours de Kennedy, hein ? Ne dites pas, ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. Ben, c'est un petit peu pareil. Il est en train de dire, arrêtez un peu avec votre individualisme inné, réfléchissez en termes de groupe. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? En quoi est-ce que vous êtes responsable, vous aussi, vis-à-vis du groupe ? À l'époque de Jésus, cette notion était tout à fait naturelle. Il n'y avait pas besoin de faire de longs discours pour expliquer cela. Ça, c'est le monde dans lequel vivait Jésus. Et j'imagine que plusieurs ce soir se retrouvent aussi, si vous venez d'autres cultures, vous retrouvez, vous reconnaissez en cette manière de penser. Bien. Mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Bien, là où je veux en venir, c'est que dans de telles cultures, la famille, c'est-à-dire les parents, les frères et les sœurs, les enfants, ceux qui ont des liens de sang, la famille en termes de liens de sang, partage du même sang, la famille était le groupe par excellence. Le groupe par excellence. La priorité absolue. La loyauté première, la solidarité fondamentale, c'était envers la famille de sang. Et c'est pour ça que dans la Bible, on a des lois comme le Lévirat. Vous connaissez le Lévirat ? J'ai un frère qui est marié, qui a une épouse, il n'a pas eu d'enfant et il meurt. Eh bien moi, ma responsabilité en tant que frère, c'est de donner une descendance à mon frère, en allant m'accoupler avec son épouse, etc. Il y avait une responsabilité très forte, familiale. Ce n'était pas mon épanouissement personnel qui était important, c'était que mon frère, mon sang, ait une descendance. C'est pour ça aussi, autre exemple, le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il y a de si choquant dans ce récit, dans cette parabole du fils prodigue ? On dit souvent que c'est parce qu'il demande son héritage. Et c'est vrai. Il est en train de dire à son père, bah, écoute, si tu pouvais être mort là tout de suite, ça m'arrangerait, comme ça j'aurais déjà mon héritage. Du coup, donne-le-moi. Enfin, c'est très choquant. Mais ce qu'il y a de vraiment plus choquant, en fait, c'est qu'il décide, ce fils cadet, de se désolidariser de sa famille. De vivre sa vie par lui-même, pour lui-même, sans référence à qui que ce soit. Ça, c'était hyper choquant. Et on pourrait multiplier comme ça des exemples bibliques. On voit que la famille de sang, est la priorité absolue. Et c'est très choquant de s'attaquer à cette notion-là. Mais alors, si dans une culture collectiviste, le groupe prime sur l'individu, et si dans de telles cultures, le premier groupe, la loyauté première, c'est envers la famille de sang, qu'est-ce qu'est en train de dire Jésus ? Quand il déclare « Ma mère et mes frères, qui est-ce ? Voici ma mère, voici mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Et bien là, Jésus est tout simplement en train de dire qu'avant la priorité des priorités, qu'avant les liens de sang dans la famille naturelle, vient l'Église, vient la communauté, vient la nouvelle famille spirituelle unie en lui. Avant. Avant la priorité des priorités. La famille que Jésus constitue autour de lui devient la priorité. La famille de la foi en Jésus. En plaçant sa foi en Jésus, on appartient à un nouveau groupe, qui est en fait une nouvelle famille, donc. Et la priorité absolue, la loyauté première de tout un chacun, l'obligation principale, est maintenant orientée vers cette famille-là. La famille spirituelle, la famille chrétienne, l'Église. Je vous laisse imaginer combien les propos de Jésus ont dû être choquants à l'époque. C'est déjà difficile à entendre pour nous, n'est-ce pas ? Nous qui sommes pourtant bien individualistes. Mais bon, notre famille de sang, c'est quand même hyper important. Et d'entendre qu'en fait, plus important encore, est la famille qui est constituée par l'Église, on a un peu de mal à l'entendre. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ça passe mal en Occident, ça. Et pourtant, Jésus, oui, remplace la priorité des priorités par la famille chrétienne, par la famille de la foi. Et quand on comprend cela, alors on comprend d'autres passages tout aussi choquants, comme par exemple ce passage en Matthieu 10. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Il a dû avoir moins de difficultés avec celui-là. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez, la loyauté première du chrétien, selon Jésus, doit être de suivre Jésus et donc de faire partie de sa famille, la famille qu'il constitue autour de lui, par ceux qui placent leur foi en lui. Dans la famille de Jésus, nous sommes unis de façon plus forte encore que dans la famille de sang. Voilà l'enseignement de Jésus, clair et net. Dans la famille de Jésus, nous sommes unis par des liens plus forts, plus responsabilisants encore que dans la famille de sang. J'avais un professeur à la fac, j'étais à la fac d'Aix, pour ma licence de théologie, il me disait, moi c'est très clair dans mon esprit, en premier il y a Dieu, en deuxième il y a ma famille, et en troisième vient l'Église. Et il me disait, à nous, futurs pasteurs, cet ordre, il est vraiment très très important, il faut le respecter. Vous aimez Dieu de tout votre corps, oui, mais vous prenez soin de votre famille. C'est votre première responsabilité. Et ensuite, viendra l'Église. Je trouvais ça plutôt pratique à l'époque, enfin, plutôt intéressant, un bon système. Se souvenir, voilà, il ne faut pas que je délaisse ma famille pour prendre soin de l'Église. Mais en fait, plus je lis les Écritures et plus je me dis que ça ne marche pas comme ça. C'est difficile à entendre, mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus a un autre discours que celui-ci. Jésus est en train de dire que le plus important, c'est lui et donc sa famille. Et donc la famille constituée par les liens de foi. Et la famille de sang s'insère là-dedans. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas entre Dieu et l'Église la famille qui vient s'insérer en termes d'importance. Non. Christ et sa famille, voici ce qui doit être ma priorité en tant que chrétien. Alors, je ne dis pas qu'on y arrive très facilement avec mon épouse, mais c'est ce qu'on essaie de vivre. Pas d'intercalage de notre famille nucléaire, entre l'Église et Dieu. On vit ça ensemble. On aime Dieu et on vit l'Église. Et on aime l'Église, c'est notre famille. Et on n'est pas en compétition avec l'Église. Ça, c'est difficile dans nos familles aujourd'hui. Hein. On a bien souvent l'impression qu'il faut être un peu en compétition, qu'il faut protéger ceci, protéger cela. Il faut faire des choix constants. Et c'est vrai, on est obligé de faire des choix. On est obligé de jongler parfois, de faire des arbitrages. Bon, il faut être créatif. Mais ce qui est juste, me semble-t-il, c'est ce que j'essaie de vivre en famille, et c'est ce que le Christ semble vouloir nous indiquer, ce que nous allons aussi du coup essayer de communiquer à nos enfants, c'est que nous ne sommes pas en compétition avec l'Église. L'Église est notre famille. Elle est notre priorité. T'as au choc ? Un peu ? Un choc. On ne peut que reconnaître que c'est ce que dit Jésus, me semble-t-il. Après, ça nous remue, n'est-ce pas ? Forcément. Mais c'est bon. C'est bien. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ?
Le top, quand toute sa famille appartient au Seigneur, en ce moment, on vit la famille parfaite.
Ouais, ça simplifie les choses. Et oui, c'est sûr que ça peut être du coup très douloureux de voir ce que Jésus disait hein, en Matthieu, l'épée.
Ça peut être facile si par exemple une partie de la famille rejette le Seigneur. On se dit, bon, je fais passer l'église avant, cette partie de la famille rejette le Seigneur. Mais ça peut être plus difficile si. Une réunion de famille pour venir à l'église. Mmh. En repas de famille, est-ce que j'ai quelque chose à l'église, mais j'ai un repas de famille. Ouais. Je privilégie mon repas de famille.
Ouais. Et oui, on est obligé de faire des arbitrages quand même, enfin de décider et de faire des choix comme ça. C'est pas toujours simple. Ouais. Je pense que c'est une disposition de cœur, avant tout. Hein. Jésus n'est pas en train de nous dire quand il faut faire ce choix-là, quand il faut faire ce choix-là. En famille, hein, moi, je peux dire parfois, ben voilà, il y a une réunion ce soir, les enfants, je suis désolé, il faut que j'y sois. Je sais que vous aimeriez bien que je sois avec vous, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, mais voilà. On est obligé de faire des choix, puis des fois, je fais le choix inverse, mais ce qui est très clair dans nos esprits, dans notre esprit en famille, c'est qu'on vit dans l'Église, on y est à fond, et on n'est pas en compétition avec elle. On n'est pas en train d'être tiraillé sans cesse, entre nous d'abord ou l'Église d'abord, c'est Jésus, donc l'Église. Et on est inséré là-dedans. Et c'est très clair, c'est dans ce qu'on communique. C'est pas tous les jours facile. Hein. C'est facile à dire, c'est moins facile à vivre. Mais c'est une orientation. C'est un choix qui me semble juste que semble nous enseigner Jésus. Alors on va aller un peu plus loin. Comme je le disais hein, tout à l'heure en introduction, on parle facilement de la communauté chrétienne comme d'une famille. Et on a raison. Donc. Mais ce que je fais remarquer, c'est que pour Jésus, cette famille chrétienne constituée autour de lui, ce n'est pas juste un autre groupe, donc, en plus des autres, et moins important que les autres. C'est même carrément l'inverse. Et ça va nous faire réfléchir sur notre propre rapport à la communauté chrétienne. Hein. Est-ce que la famille de Christ est vraiment ma priorité ? Est-ce qu'elle est ma loyauté première ? Est-ce que c'est ma loyauté naturelle ? Beaucoup d'entre nous ont du mal à répondre par un positif à cela. Est-ce qu'elle prime l'Église sur d'autres groupes d'appartenance ou d'autres activités qui peuvent être très légitimes aussi, hein, une implication dans une association, dans le social ou je ne sais quoi d'autre, ou même dans un club. Il y a des bonnes choses à vivre, mais est-ce que la famille du Christ prime sur tous ces autres groupes ? Et je pose ces questions parce que j'ai souvent quand même l'impression que notre individualisme occidental a pris le pas sur l'enseignement de Jésus jusque dans l'Église. Que nous sommes un peu des individualistes chrétiens. Des individualistes toujours, mais à la sauce chrétienne. mais ça n'a pas de sens. L'individualisme chrétien, c'est quoi ? Par exemple, c'est de penser que l'on fait partie d'une même famille, certes, oui, mais seulement dans le sens où nous avons le même Père, seulement dans ce sens-là. Et que le plus important, c'est notre relation personnelle avec le Père. C'est ça qui prime, c'est ça qui est le plus important. L'emphase, c'est ma relation personnelle avec mon Sauveur personnel, c'est ma foi personnelle en Jésus, c'est avec lui que je vais passer l'éternité. Et dans cette perspective très, très verticale, ma foi, mon Jésus, dans cette perspective-là, on pense nécessairement que l'Église, c'est-à-dire la dimension plus horizontale des choses, la famille, on pense que l'Église, elle est là surtout pour m'aider à grandir dans ma relation avec Dieu, dans ma foi, mon Jésus. On a cette idée que l'Église, bien souvent, elle est là pour moi, pour m'aider à m'élever vers Dieu. Et ce n'est pas totalement faux. Mais qu'est-ce que c'est limité comme manière de penser quand même ? Dans l'enseignement de Jésus, on voit bien qu'il y a autre chose, qu'il veut aller beaucoup plus loin. Bien sûr, chacun doit faire ses choix personnels, se convertir, placer sa foi en Christ, grandir en Christ, choisir de s'engager à sa suite. Oui, bien sûr. Et ça, ça ne peut pas être forcé. Et la communauté, bien sûr, la communauté chrétienne nous apporte beaucoup pour nous aider en cela. Mais dans l'enseignement de Jésus, ce qui est mis en avant, c'est jamais moi, ma foi, mon Jésus, ma vie éternelle. C'est jamais ça. Non. Ce qui est mis en avant dans l'enseignement de Jésus, c'est Jésus et donc sa famille. Jésus et donc sa famille. Ce qui prime, ce sont donc ces nouveaux liens qui nous unissent tous ensemble. Nous sommes maintenant unis en Christ. Nous formons une famille. Une famille qui n'est pas tant une institution avec son bâtiment, avec ses structures, son organisation. C'est plutôt un organisme vivant avec une mission à accomplir. C'est ça, finalement. Et quand je parle d'église ou de communauté chrétienne, c'est vraiment de cela. C'est à cela que je pense. Une famille en mission. Une famille où chacun a un rôle à jouer pour l'accomplissement de la mission de l'église. Et on va y revenir là-dessus, sur la mission de l'église et sur l'engagement de chacun dans l'église dimanche. Je parlerai de cela. Une famille où chacun réfléchit en termes de groupe, plus qu'en termes individuels. Qu'est-ce que je peux faire pour ma famille chrétienne aujourd'hui ? Avant de penser qu'est-ce qu'elle va m'apporter, qu'est-ce que je vais recevoir, comment ça va m'aider, qu'est-ce que moi je peux faire ? Quelle est ma responsabilité ? Et en quoi c'est une joie de pouvoir le vivre avec mes frères et sœurs. Alors, vous imaginez bien que le rejet de l'individualisme chrétien ne peut qu'avoir des répercussions concrètes sur nos vies et sur nos vies d'église, sur nos vies communautaires. Si on décide de placer la communauté avant l'individu, avant moi-même, concrètement, ça va changer les choses. Comme quoi, à votre avis ? Qu'est-ce qui changerait si vous faisiez cela, si je faisais cela, si on le vivait ensemble, si le groupe primait sur moi ? Moins de disputes, ouais, peut-être. En tout cas, on serait moins auto-centré. On ne serait pas des petits îlots chrétiens comme ça. On vivrait les choses de manière plus commune. Oui ?
Moins d'esprit de compétition.
Moins d'esprit de compétition, oui. Je me mets au service d'eux, du groupe. Je râle pas quand je ne reçois pas ce que j'aurais envie de recevoir. Mon orientation première, c'est de me mettre au service. C'est de faire grandir le groupe, de le mettre en route, de l'aider dans sa mission.
De rayonner à l'extérieur aussi.
Eh oui, du coup, ça rayonne. Imaginez un peu. Qu'est-ce que ça rayonnerait ? Ce groupe-là, ils se mettent au service des uns des autres. Ils ont un Seigneur, ils le servent ensemble, ils sont unis pour le servir. Leurs intérêts propres et premiers sont secondaires, ce qui les intéresse, c'est la mission, c'est de rayonner, c'est de proclamer Christ. Ça, on le dit, on a plus de mal à le vivre. Et il est mort. Alors, je ne vais pas être exhaustif ce soir, mais je peux vous montrer toutes les idées hein, qu'on pourrait avoir, mais on pourra en donner d'autres, on pourra en discuter ensemble. Je ne vais pas être exhaustif pour montrer toutes les façons dont une prise en compte de la communauté chrétienne comme famille peut changer dans nos comportements en tant que chrétiens et nos regards aussi sur nos frères et sœurs. Mais je voudrais quand même donner quelques exemples. Déjà, j'aimerais rappeler que dans une famille en bonne santé, on prend soin les uns des autres. Hein ? On se donne les uns pour les autres. Et je voudrais lire un texte avec vous de l'apôtre Jean, premier épître de Jean, chapitre 3. Il est magnifique ce texte. Pour moi, la communauté chrétienne, elle est décrite de manière magistrale ici. Jean dit, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas reste du côté de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère ou sa sœur est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour accueillir la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi. Nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Si quelqu'un a les moyens de vivre et voit son frère ou sa sœur dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par les actes. C'est beau, mais c'est dur, hein, quand même. C'est radical. Et la Bible a ce côté très radical qu'il nous faut entendre. Mais il y a tout là dans ce texte. Qu'est-ce qui ressort ? Eh bien que si Christ est mort pour nous, nous sommes appelés à vivre dans sa famille avec cette même orientation, avec ce même choix de vivre pour mes frères, pour mes sœurs. Puisque notre Seigneur a fait cela. Il est mort pour eux. Se donner pour eux. Se sacrifier pour eux. Voilà à quoi nous sommes, nous aussi, appelés dans cette famille que Jésus constitue autour de lui. Et ça, ça a des implications sur tous les domaines. Dans le texte, on le voit. Ça a des implications sur nos finances, par exemple. On ne peut pas dire que l'on est frère et sœur si l'on ne vit pas véritablement la solidarité matérielle. L'amour en acte. Encore une fois, il nous faut l'entendre cela, il nous faut apprendre à le vivre, et on sait que c'est difficile à le vivre dans l'Église. On va avoir tendance à accepter qu'il y ait des gens qui soient vraiment sans le sou dans notre communauté, et puis on dit « Ah, c'est la famille, est-ce que je suis prêt à me donner pour cette personne qui est vraiment dans le besoin ?» À abandonner certains de mes biens pour pouvoir vraiment l'aider. L'enseignement de Jean, là, est plutôt radical sur la question. Si nous aimons Dieu, oui, il nous faut le faire. Et c'est pas simple. Mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est important ? On le vivrait dans notre famille de sang assez naturellement, cela. Je supporterais pas que mes parents, par exemple, se retrouvent à la rue, je les accueille là chez moi. Mais si l'Église, si la communauté est encore plus importante, c'est ma responsabilité première, est-ce que je suis prêt à faire ce pas également pour mon frère, pour ma soeur ? Il nous faut être interpellé. Surtout pas être culpabilisé, hein, c'est pas ça l'idée, mais être interpellé ce soir pour pouvoir se dire, oui, là, j'ai peut-être besoin, dans ma relation, dans mon regard sur la famille qu'est l'Église, d'être un petit peu secoué. Un autre aspect concret de cette idée de communauté comme famille, c'est que si nous faisons partie de la famille de Jésus, nous devons aussi partager nos cœurs les uns avec les autres. Et oui, c'est-à-dire passer du temps ensemble, se connaître, apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier, apprendre à se dire les choses. Et si on a du mal à s'aimer, apprendre à s'aimer, passer du temps ensemble et s'ouvrir l'un à l'autre. Il y a un attachement émotionnel, forcément affectif, fort, qui doit nous unir. Sinon, l'Église, c'est une simple institution froide, mais pas une famille. Mais en partageant nos cœurs, en s'aimant ainsi, on grandit, je pense, dans notre confiance mutuelle. On partage nos sentiments, on partage nos joies, on partage nos pleurs, on partage nos échecs. On n'a pas peur de s'ouvrir à l'autre. C'est la famille. On se soutient, du coup, les uns les autres, dans la prière, mais pas que. On s'inquiète aussi pour nos frères et sœurs, on s'inquiète dans le bon sens du terme, on se soucie. On embrasse l'autre dans sa faiblesse plutôt que de le rejeter. Bref, on forme une famille, oui. Avec des difficultés, bien sûr, avec des manques, avec des péchés, mais une famille qui choisit de vivre ensemble, de s'attacher, qui choisit l'affection mutuelle. Qui choisit d'ouvrir son cœur. Je choisis de m'ouvrir à l'autre, d'avoir ce courage, de lui dire parfois ce que je pense, mais de recevoir aussi, d'entendre ce qu'il pense. Courage de s'ouvrir à l'autre, de partager nos cœurs ensemble. Ça, c'est essentiel. C'est ce qui se vit dans la famille, une famille en bonne santé, en tout cas. C'est ce que nous devons vivre aussi en Église. Cette authenticité. C'est difficile de se cacher dans la famille. On pourrait essayer de cacher nos tempéraments, nos pensées. Mais bon, ceux qui vivent avec nous, ils savent. On ne peut pas se cacher. On essaye parfois, mais on est quelque part obligé d'être authentique, d'être honnête. Et il nous faut apprendre à vivre cela aussi en Église. Et puis, je vais terminer là-dessus, une autre conséquence concrète de ce regard que nous propose Jésus sur la communauté comme une famille, cette famille que nous formons en lui, c'est la façon dont on fait des choix. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. La famille de Jésus doit impacter nos choix et nos décisions. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure ? Dans une dynamique collectiviste, chacun est libre d'agir, complètement libre d'agir, mais à condition que ce soit dans l'intérêt du groupe. Et je pense qu'il y a là une dimension qui est quand même très fortement oubliée de nos vies chrétiennes et de nos vies communautaires. Posons-nous la question. Est-ce que quand je fais une dépense, je vais au supermarché m'acheter, je sais pas, une bouteille de vin, est-ce que quand je fais cette dépense, je réfléchis à l'intérêt de cette dépense pour la communauté ou simplement pour moi ? Bon, c'est peut-être idiot cet exemple de la bouteille de vin, mais mon téléviseur, ma voiture. Est-ce que je réfléchis simplement en termes de ce que cette dépense va m'apporter ? C'est pour mon bien, c'est pour moi ? Ou est-ce que je vais réfléchir en termes de l'utilité de cette voiture aussi pour d'autres, pour la communauté, pour la famille ? Quand je choisis un métier, c'est pareil. Est-ce que je me pose la question de l'impact que ça pourrait avoir sur la communauté ? Ou encore, est-ce que je suis prêt à demander de l'aide, de la guidance de la communauté pour faire certains choix ? Ou est-ce que je considère que les choix ils ne reposent que sur moi et sur moi seul ? Bref, est-ce que je suis au centre de mes choix de vie, de mes choix très pratiques, très concrets, au jour le jour, de mes décisions ? Est-ce que je suis le début et la finalité de ces choix ? Ou est-ce que mon appartenance à la famille chrétienne, à la communauté, impacte mes choix, mes décisions, mes dépenses, je ne sais quoi d'autre ? Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Là, il y aurait un changement de c'est ce que disent les informaticiens, Loïc, aide-moi. Changement de carte mère ou je ne sais pas quoi. Logiciel, merci. Quelque chose qui doit changer là. On n'a plus le droit d'être des individualistes dans la famille chrétienne. On est appelé à vivre autre chose, de bien meilleur, de plus grand, de plus beau. Voilà. Il n'y a aucun doute hein, que nous avons énormément à apprendre de Jésus, de son enseignement sur la famille que nous formons. Pas de doute que vous vivez hein, déjà de très belles choses ici, en communauté, dans la famille, ici, à Nîmes. Je suis reconnaissant pour cela, bien évidemment. Et je sais aussi qu'à bien des égards, vous, comme toutes les autres communautés, la mienne, nous sommes encore loin du compte, nous sommes encore en chemin, nous avons beaucoup à apprendre. Alors, pour conclure, je vous invite simplement à écouter à nouveau cette vérité qui est énoncée par Jésus, avec, d'écouter peut-être avec des oreilles nouvelles, avec tout ce que nous venons de méditer ensemble ce soir. En effet, dit Jésus, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère. Je voudrais vous inviter à prier, hein, prier pour que cette annonce prenne vraiment racine en nous, que tout cela porte de beaux fruits dans cette communauté. J'imagine, j'espère même que ces propos de Jésus vous font réfléchir, vous chamboulent peut-être un petit peu, chamboulent vos priorités. Peut-être que ça vous fait un peu peur. C'est normal. Jésus veut vous transformer. Il nous parle parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Nous pouvons lui faire confiance. Alors, laissons-le humblement. Laissez interpeller par lui. Prions quelques instants. Mon Seigneur Jésus, merci pour tes enseignements, pour ta parole. Tu n'étais pas un enseignant qui brossait dans le sens du poil. Non, tu étais un enseignant qui savait mettre le doigt sur tes difficultés, là où ça fait mal, parfois. Tu avais une véritable exigence dans ton enseignement, mais en même temps, toujours, c'est parce que c'est ce dont nous avons besoin que tu l'enseignais. Parce que tu savais nos faiblesses, nos orientations de cœur, tu connaissais notre péché. C'est pour cela que tu nous enseignes ces choses, que tu nous tires vers le haut et que tu nous apprends, par exemple, que nous formons une famille, oui, que la communauté que nous formons, la famille chrétienne, c'est ta famille et cette famille est notre priorité, notre responsabilité, puisque c'est ta famille. Seigneur, je veux vraiment te louer pour cela, te louer de ce que tu nous aides à être transformés, à changer nos regards sur ce que nous vivons. Tu vois combien c'est difficile de changer de regard, tu vois combien parfois nos lunettes, nous pensons qu'elles corrigent notre vue suffisamment, mais pas tout à fait. Elles ont encore besoin d'être affinées, d'être changées. Et c'est ce que tu veux faire pour nous ce soir. Pour cela, donne-nous des cœurs malléables, des cœurs prêt à entendre, prêt à écouter, prêt à se laisser transformer par ton esprit. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Donne-nous de grandir dans cette dimension de la famille chrétienne. Pour ta gloire. Amen. Bien. Alors, peut-être que vous avez des questions, des remarques à poser. On va dire sur tout cela. Bienvenue au club, à la famille. Alors, j'ai une question pour vous. Vous, il y avait une question là-bas ? Oui ?
Oui. Est-ce que ces belles choses qu'on a entendues, qui font du bien, nous rappelle ces vérités tellement importantes, on ne peut pas dire que finalement c'est un fruit qui est porté pour Dieu dans cette communauté retrouvée, dans ces relations. C'est Dieu qui est le grand bénéficiaire de tout ça.
Oui, oui. Enfin, il n'a pas besoin de nous. C'est lui qui nous bénit. Mais c'est vrai que plus nous sommes orientés vers lui, plus nous cherchons à le bénir, à le louer, à le servir, et plus nous en retirons des bénéfices. C'est ce cercle vertueux de la vie chrétienne. Et oui, c'est pour notre bien. Il veut nous bénir, clairement, en nous donnant de vivre dans une nouvelle famille, famille spirituelle. Il sait que c'est bon pour nous. Et il est glorifié quand nous le faisons. Et plus nous le glorifions, et plus nous sommes bénis. C'est beau, quand même. Il n'y a pas grand-chose dans le monde, dans la vie, qui ressemble à ça. Oui ?
J'ai aimé que tu précises à plusieurs mesures, là, de dire la famille en bonne santé. Je suis quelquefois un tout petit peu marquée par les impacts des familles dysfonctionnelles.
Bien sûr.
Et s'il existe peut-être une famille non dysfonctionnelle, c'est quand même une belle guérison.
Oui.
Et c'est vrai que souvent, quand on dit bon, l'Église est une famille, ça se dit beaucoup. Je me dis toujours, et les gens qui sont tellement blessés par les dysfonctionnements de famille, heureusement qu'après, on vient apporter d'autres éléments. Parce que je trouve que sinon, c'est un mot un peu piégé, quoi.
Bien sûr. Comme la notion de père.
Absolument.
Combien il y a de relations blessées avec nos pères respectifs. J'entends, et c'est important de nuancer, enfin pas de nuancer, mais de dire oui, il s'agit de quelque chose que Dieu nous offre, qui est bon et qui veut que nous puissions vivre pleinement. Mais c'est vrai que le péché vient nous rendre dysfonctionnels dans nos familles de sang et dans la famille qu'est l'Église aussi. Mais nous sommes appelés à vivre quelque chose de beau qui nous est donné, c'est une grâce qui nous est offerte. Et le risque, et c'est ce que je dois dire souvent, enfin pas très souvent quand même, mais régulièrement à des personnes dans l'Église qui peuvent avoir une vision de leur père qui est très défectueuse, voilà, qui est blessée, dire oui, mais entends ce que veut te dire Dieu. Il veut être un père qui est parfait, et il est. Donc ne rejette pas le père parce que ton propre père a été mauvais. Il y a quelque chose de beau à vivre là, mais il y a un dépassement à faire. Qui est pas simple toujours. Oui.
Oui, pour vivre la dernière partie, là, on peut aussi dire que chacun a ses dons aussi.
Ouais.
Parce que, par exemple, mon épouse, elle va penser aux personnes. Bon, moi, je ne vais pas du tout y penser, quoi. Très peu. Et moi, je vais être plutôt au service, rendre des services, mais je ne vais pas penser aux personnes, quoi. Ça me sort de l'idée. Voilà, chacun un peu a ses dons.
Oui, je pense.
Ça ne va pas être l'outil.
Non, bien sûr.
On va accrocher toutes les cases parce que ça, c'est vraiment.
Bien sûr. On a tous des rôles différents dans la famille. Mais on est au service. De différentes manières.
Oui.
Oui, tout à fait.
Moi, j'étais aussi, touché par le côté. J'ai bien aimé le côté de ne pas mettre nos familles de sang en compétition avec l'Église, mais les impliquer dans.
Ouais. Et ça, c'est pas facile. Moi, c'est un combat, pas tant avec ma famille. Enfin, c'est vraiment une grâce, mais probablement parce que je suis pasteur et ils n'ont pas eu trop le choix. Mais c'est bien, en fait. Et je réalise que là, il y a quand même un exemple à donner dans les familles que composent nos églises. On a très peur que nos enfants aient une mauvaise image de l'Église. On a peur. Qu'est-ce qu'on a peur ? On ne veut pas qu'ils soient dégoûtés. On ne veut pas qu'ils s'ennuient. On ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Alors on préfère qu'ils restent à jouer sur la Game Boy ou à regarder la télé plutôt que de venir s'ennuyer à l'Église. Bah, je ne suis pas persuadé. Je pense que parfois, il faut dire, et même souvent, non, la priorité c'est l'Église, tu viens. Il n'y a pas de discussion. C'est pas toujours facile et ça peut tirailler, etc. Mais je pense que sur le long terme, quand c'est bien vécu, quand c'est vécu aussi naturellement, quand c'est parlé en famille, quand c'est discuté, quand on peut dire les choses, on arrive à le vivre. Mais c'est pas simple et je suis pas en train de jeter la pierre sur qui que ce soit. parce que je sais que voilà, ça peut tirailler très 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 fermement. Mais il y a un apprentissage à avoir et surtout une peur à rejeter. Quand on aime la famille, on aime passer du temps avec elle et puis on apprend à le faire. Moi j'ai des souvenirs où je m'ennuyais mais à mourir en allant visiter la grand-tante, machin, passer les dimanches après-midi, les repas qui durent 3 heures, etc. Et en même temps, c'est des bons souvenirs aujourd'hui. Et à l'époque, je m'ennuyais. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose de beau, j'ai appris des choses. Et je pense que ça peut être vrai, et ça doit être vrai aussi pour nos enfants à l'église qui parfois s'y retrouvent pas totalement. Mais ils entendent des choses, ils reçoivent des choses, ils voient ce qui se passe. Et ça les impacte. C'est bon pour eux. Oui.
Justement, pour aller dans ce sens-là, mais, ben, l'église aussi a. Bon, notre église le fait, mais pour éviter, entre guillemets, de l'ennui, je ne dis pas de multiplier les activités, mais l'église a aussi besoin de créativité,
ah oui.
Notamment pour nos enfants.
Bien sûr.
Moi aussi, j'étais un enfant qui a pu s'ennuyer à l'église. On est dans les années 90, bon, on mettait plus l'accent sur les adultes, et puis les enfants, c'est plus, tu te tais, tu lâches dans ton coin. L'Église a un peu changé par rapport à ça, et il est bon aussi de réfléchir, justement, toujours dans cet esprit de famille, que, dans cet esprit de communauté, que ben, l'enfant a aussi un intérêt à vivre l'Église,
et oui.
comme l'adulte, donc ne pas délaisser l'enfant pour l'adulte, mais voilà, donc prendre soin de lui, puis trouver de la créativité autant pour l'enfant que pour l'adulte.
Oui, tout à fait. Voilà. Merci. D'autres choses ? Alors, j'ai une question peut-être un peu plus difficile. Enfin, c'est un peu difficile, mais j'ai parlé de la communauté locale. Hein, j'imagine que c'était assez naturel de l'entendre comme cela. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres communautés ? Ici à Nîmes. Oui, c'est ça. Mais quelle relation familiale on a avec eux alors ? C'est quand même la famille de Christ aussi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça change ? Quels sont les.
Dans nos pays, dans nos provinces protestantes, surtout dans nos provinces protestantes par rapport à d'autres parties de la France où il y a l'église catholique qui a le même père.
Eh oui, là il y a beaucoup de. Beaucoup d'églises animent.
Beaucoup d'églises protestantes, mais beaucoup d'églises catholiques.
Et aussi.
Bien sûr.
Jean-Claude est catholique, hein, c'est aussi des frères et sœurs.
Ben oui,
c'est ce qu'elle disait. C'est ce que je suis en train de dire.
La grande famille.
Mais si elles ont le même père, du coup, quelque part, il y a aussi une responsabilité. Hein. Il y a ce que l'on va appeler une ecclésialité à vivre. L'église, c'est pas que la communauté locale. C'est aussi des cousins, des autres communautés. C'est vraiment la famille. On a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Alors, il y a toujours, hein, dans la famille, il y a toujours un oncle un peu bizarre, où il y a toujours des gens qui ont des pratiques qui ne sont pas tout à fait les autres, etc. Mais c'est la famille, et on les aime. Et on apprend à vivre avec. On apprend à se retrouver de temps en temps. C'est très important. Et à partager, à prendre les uns des autres, à se laisser chambouler aussi par leur spiritualité, par leur manière de penser, etc. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel de se rappeler de cela. On n'est pas des petits îlots, une petite famille à nous tout seuls. On appartient à une bien plus grande famille. Alors c'est sûr que nos liens communautaires, ils sont plus forts. Vous êtes engagés vraiment les uns envers les autres, là, dans la communauté locale. Vous avez professé votre foi ici, vous avez décidé, choisi de servir cette communauté, de vous placer sous l'autorité d'un pasteur ou d'un collège de pasteurs. Vous avez décidé quelque chose, vous vivez des choses fortes ici, bien plus fortes que ce que vous vivez avec d'autres églises. Mais les autres églises sont quand même la famille. Et on a une responsabilité vis-à-vis d'elles. Du coup, quand une communauté est dans le besoin, quand un cousin est dans le besoin, on lui vient en aide. En tout cas, on prend des nouvelles, on prie, on voit ce qu'on peut faire. La communauté d'à côté n'a pas de groupe de louanges, bah, peut-être qu'on va pouvoir envoyer un guitariste. Ou dans un besoin matériel, on va pouvoir faire quelque chose. On réfléchit aussi en ces termes-là. Bien sûr, je crois que c'est vraiment important, et je parle bien sûr parce que je suis président d'une fédération d'église, donc je sais bien qu'il y avait besoin de faire du lien, de vivre la famille au-delà simplement de la communauté locale. Mais c'est vrai aussi avec d'autres unions d'église, avec les autres églises ici à Nîmes et dans le Gard, etc. Et dans la fédération baptiste. Vous avez beaucoup de cousins dans la fédération baptiste. Ça, je crois que c'est vraiment une notion importante, en tout cas. Et puis, la question finale que j'ai peut-être pour vous, elle n'est pas simple, parce que vous n'avez pas encore eu le temps d'y réfléchir. Mais si le Seigneur vous appelle à quelque chose, pour rebondir sur cette notion de famille, ici, à Nîmes, au centre Martin Luther King, c'est quoi ? À quoi est-ce qu'il vous appelle, à votre avis ? Pour vivre mieux la famille, cette notion de famille, qu'est-ce que vous diriez ? Quels seraient les enjeux principaux, ou les défis à relever ?
D'apprendre à la connaître, à faire des choses ensemble, à avoir des actions communes.
Qui est du lien ?
Oui, qui est du lien.
Et ça, en période post-Covid, c'est vraiment important. Ah oui, bien sûr. Mais dans la communauté ici, à Martin Luther King, il y a déjà beaucoup de choses, j'entends.
C'est vrai qu'avec les actes très concrets, on avait à peu près 2 AVM par mois, avant le Covid.
Et ça manque, ça.
C'est compliqué, on peut s'inviter les uns les autres, mais à peine pour grosse église, on faisait ça à peu près 2 dimanches par mois. Ça dommage.
Oui, là, ça, je suis complètement d'accord. Ça nous a coupé les pattes à toutes nos communautés. Ce Covid-là, il faut retrouver des moyens, de la créativité pour faire du lien.
Un nouveau souffle.
Un nouveau souffle, oui. J'ai l'impression que ça reprend petit à petit. On espère que cette fameuse cinquième vague ne va pas nous recouper les pattes. Mais on a besoin de ça. Hein. L'Église, c'est le rassemblement. Hein, c'est le sens même du mot, le rassemblement. Alors, qu'est-ce qu'on en a besoin ? Des temps forts ensemble autour de la table.
Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est assister aux réunions, assister aux groupes de maison. C'est une famille, assister aux réunions de famille.
Oui, tout à fait. Plus on le fait, et plus on va pouvoir aussi grandir dans notre amour pour la famille et réaliser où sont les besoins pour nous y impliquer, etc. Ouais. Choisir toutes ces opportunités là, qui nous sont données. De vivre la famille, choisir de les vivre. Et parfois, ça demande de l'effort. Hein. Il faut choisir de ressortir le soir quand il pleut. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est bon ? Moi, je le dis régulièrement, ça m'est arrivé plusieurs fois ces temps-ci, réunion de prière le mardi soir, je rentre de Paris, je suis complètement crevé, lessivé, le train qui a du retard, etc. Et il faut que j'aille à la réunion. Pourtant, je suis payé pour ça un peu. Hein. Et franchement, des fois, on n'a pas envie. Mais on passe 1h30 de prière, de louange ensemble, et tu ressors de là, complètement reboosté, heureux d'avoir vécu un temps fort avec la famille. C'est vraiment une bénédiction. Et ça, il faut s'en souvenir. Ouais. Choisir, faire ce choix. Même quand on n'a pas vraiment envie parce qu'on est fatigué, etc. Ce sont des choix bénéfiques. Oui, alors bien, attendez, tout ce que je dis là, il ne faut pas le prendre du tout hein, comme des accusations ou des choses comme ça. Non. Je sais bien qu'il faut faire des choix et parfois on ne peut pas. Complètement d'accord. Ouais.
Oui.
Je trouve que ce que tu dis, ça a interrogé aussi la question de. Parce que, il me semble qu'on a toujours très peur d'être très intrusif, mais la question des besoins. Tout à l'heure, quand tu parlais des besoins des frères et sœurs, parce qu'il y a des frères et sœurs qui osent le dire, d'autre part.
est-ce que j'imagine être le minimum pour l'autre ou pas, ou le minimum pour moi. Et je trouve que c'est entre la délicatesse, l'amour fraternel, la solidarité, tout ça, tout ça. Et puis les cultures de famille, les histoires de chacun. Bon, au tout début de la forme chrétienne ici, on s'interrogeait beaucoup sur acte 3, c'est 2, il était trop commun. On avait compris que ce n'était pas forcément. Mais jusqu'où, comment, quelle est la place du service social et quel est son budget, entre guillemets. Il y a évidemment, et je trouve que c'est très très précieux, l'aide concrète. Je crois que ça, c'est un terme d'amour qui est très important. Mais même là, on ne sait pas si les gens vont se demander, si on est intrusif quand on. Enfin, je trouve que c'est très délicat ça. Oui, oui. Encore plus en communauté, parce que c'est un groupe qui prend. Enfin, voilà, je trouve. Et là, quand tu me dis, bon, l'autre, là, c'est aussi important que si c'était mon frère, ma soeur, mon père, et ben, ça fait quelque chose. Et comment le savoir?
C'est un peu le serpent qui se mord la queue, ce que je veux dire, non, mais c'est en passant du temps ensemble, en apprenant à connaître la personne, en faisant aussi des boulettes, hein, qu'on apprend ce qu'on peut, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut, ce qu'on peut pas dire, si on est vraiment intrusif ou pas, etc. Mais ça demande du temps, ça c'est sûr. Et encore une fois, le Seigneur regarde à nos cœurs. Et je crois que si on le recherche vraiment, et bien il nous conduit aussi. Parfois, il nous conduit en nous permettant de faire des erreurs, et de dire des choses qu'on regrette plus tard, ou à faire des gestes qui nous semblaient bons, mais qui en fait ont fait du mal. Et on apprend. Ouais. Et du coup, voilà. Le plus triste, je trouve, c'est quand on imagine qu'on va être intrusif et du coup qu'on ne fait rien. Alors que la personne avait quand même besoin qu'on lui parle, qu'on lui dise quelque chose, qu'on lui offre quelque chose.
Oui, quelquefois quand on parle, c'est pas toujours accueilli également partout. Et après on entend des choses qu'on a dites à quelqu'un et qui vont. Enfin, je veux dire, c'est pas facile.
C'est très délicat.
C'est pas facile. Oui, quelquefois il y a des blessures qui naissent comme ça, des confidences qu'on a faites. Et puis qui se retourne.
Compliqué. C'est très compliqué.
Et ça pousse à se taire.
On est dans l'humain. Clairement.
Parce qu'il y a une dimension humaine ici. Là, on a levé une colle à la peau. Quoi.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
Et donc, vous constatez.
C'est le risque, en tout cas. Je crois qu'il faut le voir comme un risque. Et vraiment prier, et vraiment prendre en compte. Parce que réaliser que. C'est pas en ne faisant rien que les choses vont progresser, vont s'arranger. Mais voilà, c'est délicat, il faut bien penser les choses. Et puis encore une fois, faire des erreurs, c'est rarement rédhibitoire. Et on peut dire pardon, on peut dire pardon, c'est avancé.
Oui, c'est
ça. Oui,
c'est
ça. Bien, on s'arrête là? À demain.